Notre grand maître. Le Christ a été le plus grand maître que le monde ait jamais connu. Il est venu sur terre pour répandre autour de lui les rayons brillants de la vérité, afin que les hommes se préparent au ciel. Voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité, a-t-il déclaré. Il est venu révéler le caractère du Père, afin que les hommes l'adorent en esprit et en vérité. Le ciel savait que l'humanité avait besoin d'un divin maître. Dieu éprouvait de la pitié et de la sympathie pour ces hommes déchus et enchaînés par Satan. Quand les temps ont été accomplis, il a envoyé son Fils. Celui qui avait été choisi par les conseils célestes est venu sur terre pour instruire les hommes. C'est par sa grande bienveillance que Dieu l'a offert au monde, et, pour combler les besoins de notre nature humaine, le Christ s'est revêtu d'humanité. Au grand étonnement des armées célestes, le Verbe éternel est descendu dans ce monde sous la forme d'un bébé fragile. S'étant pleinement préparé, il a quitté les parvis royaux et s'est mystérieusement allié aux êtres humains déchus. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Quand le Christ a quitté son haut gouvernement, il pouvait revêtir la forme de vie de son choix. Mais la grandeur et le rang ne signifiaient rien pour lui, et il a choisi la position sociale la plus humble. Aucun luxe, aucune aisance ni aucune gratification personnelle n'ont fait partie de son expérience. La vérité céleste, tel devait être son thème. Il devait semer la vérité dans le monde et il a vécu de façon à être accessible à tous. Le fait que durant son enfance le Christ ait grandi en sagesse et ait eu la faveur de Dieu et des hommes n'a rien de surprenant, car c'est en relation avec sa mission divine que ses talents se sont développés et ses facultés fortifiées. Il n'a pas cherché à s'instruire dans les écoles de rabbins, car son instructeur était Dieu. En grandissant, il a continué à croître en sagesse. Il s'est appliqué avec assiduité à l'étude des Écritures, car il savait qu'elles contenaient des instructions d'une valeur inestimable. Il accomplissait fidèlement les tâches qu'on lui confiait chez lui. Il passait souvent les heures matinales, non pas au lit, mais dans un lieu retiré, sondant les Écritures et priant son Père céleste. Toutes les prophéties concernant son œuvre et sa médiation lui étaient familières, notamment celles en rapport avec son humiliation, son expiation et son intercession. Il avait constamment à l'esprit l'objectif de sa vie terrestre et il se réjouissait à l'idée que les desseins de grâce du Seigneur prospéreraient entre ses mains. De l'enseignement du Christ, il est dit, et la masse du peuple l'écoutait avec plaisir. Jamais homme n'a parlé comme parle cet homme, ont déclaré les gardes envoyés pour l'arrêter. Ses paroles réconfortaient, fortifiaient et apportaient la bénédiction à ceux qui aspiraient à la paix que lui seul pouvait apporter. Quelque chose dans son discours incitait son auditoire à penser et à agir avec noblesse. Si ses paroles, au lieu de celles des hommes, étaient prononcées aujourd'hui, elles témoigneraient d'une intelligence supérieure, d'une compréhension claire du divin, d'une connaissance profonde de Dieu, d'une vie chrétienne pure et remplie de force. Le Christ puisait dans la vie quotidienne des illustrations toutes simples mais riches de sens. Les oiseaux du ciel, les lits des vallées, la semence qui germe, le berger et ses moutons, c'était avec de telles scènes que le Christ illustrait les vérités immortelles. Ses auditeurs se rappelaient ensuite ses paroles chaque fois qu'ils revoyaient ces scènes. Ainsi, la vérité prenait vie. Les scènes de la nature et les préoccupations quotidiennes ne cessaient de leur rappeler les enseignements du Sauveur. Le Christ utilisait toujours un langage simple, et pourtant ses paroles défiaient la pensée la plus profonde, la moins sujette aux préjugés. Les maîtres d'aujourd'hui devraient suivre ses méthodes d'enseignement. Les vérités spirituelles devraient toujours être présentées dans un langage simple, afin qu'elles soient comprises et pénètrent dans le cœur. C'était ainsi que le Christ s'adressait aux foules qui se pressaient et affluaient autour de lui. Tous, cultivés ou non, comprenaient ses leçons. Dans toute école, l'instruction donnée devrait être aussi facile à comprendre que les enseignements du Christ. L'emploi de grands mots rend l'esprit confus et obscurcit la beauté de la pensée présentée. Nous avons besoin d'enseignants prêts à se rapprocher de leurs étudiants et à leur donner une instruction claire et précise, illustrant les vérités spirituelles par des thèmes tirés de la nature et de l'expérience quotidienne. La Bible présente le Christ comme le bon berger, inlassablement à la recherche de la brebis perdue. Par des méthodes qui lui étaient propres, il secourait tous ceux qui étaient dans le besoin. Avec une grâce tendre et courtoise, il veillait sur les âmes malades du péché, leur communiquant santé et vigueur. La simplicité et la sincérité avec lesquelles il s'adressait aux démunis sanctifiaient chacun de ses mots. Il proclamait son message sur le flanc des montagnes, le bateau du pêcheur, dans le désert et sur les routes fréquentées. Chaque fois qu'on était disposé à l'écouter, il révélait les trésors de la vérité. Il assistait aux fêtes annuelles de la nation juive et, aux foules absorbées par les cérémonies extérieures, il présentait les thèmes du ciel, mettant l'éternité à leur portée. La vie tout entière du Sauveur se caractérisait par une bienveillance désintéressée et par une sainteté pleine de beauté. Il est pour nous un modèle de bonté. Dès le début de son ministère, les hommes ont commencé à mieux percevoir le caractère de Dieu. Le Sauveur appliquait les enseignements de son Père dans sa propre vie. Il faisait preuve d'une cohérence dénuée d'obstination, d'une bienveillance dénuée de faiblesse, d'une tendresse et d'une sympathie dénuée de sentimentalisme. Il était d'une grande sociabilité, tout en témoignant une réserve qui décourageait toute familiarité. Sa tempérance n'est jamais allée jusqu'à la bigoterie ou l'austérité. Il ne se conformait pas au monde et cependant il était attentif aux besoins du moindre des hommes. Qui donc est-il, celui qui arrive d'Édom, qui nous vient de Botsra en habit écarlate, drapé avec splendeur, et qui s'avance dans l'éclat de sa force? La réponse nous est donnée avec assurance, et il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il se dépouilla lui-même, prenant la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Les enseignants ne gagneront en efficacité et en dynamisme que s'ils travaillent comme le faisait le Christ. Si son influence sur leur vie est primordiale, leurs efforts seront couronnés de succès. Ils atteindront des objectifs nouveaux. Ils réaliseront le caractère sacré de l'œuvre qui leur est confiée et, remplis de son esprit, ils aspireront tout autant que lui a sauvé des pécheurs. Leur vie engagée et fervente conduira leurs étudiants au pied du Sauveur. Les étudiants ne peuvent se permettre d'attendre d'avoir fini leurs études pour mettre les talents qu'ils ont reçus au service d'autrui. Sinon, quelle que soit leur façon d'étudier, quelles que soient les connaissances acquises, leur éducation sera incomplète.